là où ton ego meurt, l'évangile prend vie. Hein. C'est ce que nous disait Josué il y a à peu près 3 semaines. Et jour après jour, notre défi, notre combat, c'est d'être, comme l'apôtre Paul nous le suggère, savoir renoncer à ses droits. Et ô combien nos droits, on l'a vu dans l'histoire. Moi, je veux, Seigneur, renoncer à ses droits par amour pour les autres et pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est un principe biblique que Dieu nous commande. Voilà la question qui se posait à la lecture du chapitre 9 de 1 Corinthiens. On va étudier ce matin et lire 1 Corinthiens 10. Je m'arrêterai simplement sur les 13 premiers versets parce qu'il y en a beaucoup à dire et il faudrait presque une deuxième prédication. En tout cas, le chapitre 10 met en avant un autre principe essentiel. Notre vocation première est de promouvoir la gloire de Dieu tout au long de notre périple terrestre. L'Église a la responsabilité de se positionner face, de façon claire et sans ambiguïté, c'est dur, devant les défis sociétaux qui se présentent, auxquels on est confronté. Comme à l'époque des Corinthiens, on vit dans un milieu, une culture qui est de plus en plus idolâtre, débauchée, qui se moque de Dieu. Et l'Église doit évoluer au milieu de ces ténèbres pour être lumière et resplendir, glorifier Dieu. Mais dans ce texte, il est aussi question de la manière dont l'Église et ses membres, donc vous et moi aussi, comment on gère notre liberté chrétienne au quotidien. Depuis que le monde est sous l'emprise du malin, eh bien, nous avons à lutter sans relâche contre notre vieille nature qui vient sans cesse nous combattre, nous pousser à chuter. On doit rejeter les sollicitations du malin, multiples et variées, qui viennent à nous, et puis tenir ferme devant les sollicitations de notre monde qui nous entoure. Il est quasiment impossible d'échapper à toutes ces sollicitations multiples. Et pour étayer son enseignement, alors l'apôtre Paul va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament à titre d'exemple pour éveiller notre vigilance dans notre marche quotidienne. Et puis on va découvrir trois moyens utiles, efficaces à mettre en pratique afin de sortir victorieux dans nos luttes, dans nos combats, à travers nos tentations, nos luttes avec le péché. Alors on va lire sans tarder 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les viandes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous en créer de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de ce qu'on vous présentera, sans vous en courir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Si donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, ce verset clôt un peu les chapitres 8, 9 et 10. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez au scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Rassurez-vous, on va s'arrêter juste sur les 13 premiers versets. Il y a déjà pas mal de choses à dire. On voit d'abord un bref aperçu de l'action merveilleuse pour ses enfants dans le désert. Avec puissance, vous le savez, Dieu avait opéré des prodiges, des miracles, pour libérer les Israélites du joug de l'Égypte. Ils étaient asservis durement durant des siècles. Et l'Éternel leur envoya leur serviteur Moïse pour les délivrer et les conduire vers des contrées hospitalières. Et tout au long de leur périple, le Seigneur était aux commandes et pourvoyait à tous leurs besoins. Mes amis, le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, est un peuple libéré du joug de l'esclavage. L'Église est ce peuple d'hommes et de femmes de tout pays, de toute dénomination que personne ne peut compter, qui marche par la foi dans les pas du Seigneur Jésus. Jésus nous guide à travers nos joies et nos peines vers la félicité éternelle. C'est une promesse ineffable et on peut louer son nom comme on l'a fait ce matin. Et dans ces mêmes versets 1 à 4, nous découvrons cinq bénédictions extraordinaires qui furent données à Israël. Et par quatre fois, il y a le mot « tous ». Tous étaient sous la nuée. Tous ont traversé la mer Rouge. Tous ont été guidés par baptisés en Moïse. Tous ont mangé la manne du ciel. Tous ont bu un breuvage, un rocher qui les suivait et on dit que c'est le Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Tous, nous chrétiens, on était englobés dans le baptême qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous tous avons le privilège, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir accès à Jésus-Christ, notre pain céleste, qui rassasie notre âme en tout temps. Et quand on prend la Sainte Cène, on se rappelle que le corps de Jésus a été brisé pour nous sauver. Nous tous avons le privilège de nous abreuver aux sources d'eau vive, à ce rocher. Rappelez-vous, ce rocher dans le désert a dû être frappé pour que de l'eau salvatrice puisse désaltérer le peuple qui souffrait de la soif. Mes amis, Jésus a été frappé, humilié, cloué sur une croix pour nous obtenir le salut. Nous étions tous esclaves du péché, il nous a secourus et il nous a rendus libres, affranchis de toutes choses. Et depuis notre conversion, Christ vit en nous par son esprit glorieux. Et tout au long de notre vie, Dieu ne fera jamais défaut. Il est aux commandes. Nous avons l'assurance, nous, ses enfants rachetés ici présents, que nous serons conduits à bon port, que nous passerons l'éternité à ses côtés. Et mon frère, ma sœur, tu l'as déjà compris, mais ces cinq bénédictions t'appartiennent, nous appartiennent. Il y en a bien d'autres dans la parole, mais les cinq là, elles sont belles déjà. Merveilleuses. Combien on peut être touché de la générosité de Dieu? Combien on peut être reconnaissant de son amour éternel et si grand pour nous? Il dit au peuple Deutéronome 7, « Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi. » Dieu nous a choisis, nous a cherchés là où nous étions. « Parmi tous les autres peuples de la terre, pour être son bien le plus précieux. » Rendons-nous compte, nous sommes le bien le plus précieux de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est mon bien le plus précieux? Mais ce qui est étonnant, et ça c'est le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Au lieu de se délecter de toutes ces bénédictions, de la présence divine, cette colonne de lumière qui les suivait, qui les guidait le jour, la nuit, au lieu de se délecter de la présence divine de Dieu, je ne sais pas pourquoi, enfin si quand même, une partie du peuple décide de laisser libre cours à ces désirs coupables qu'il venait de quitter. La vie chrétienne, mes amis, n'est pas un long fleuve tranquille, nous le savons bien. Nous le savons aussi, l'esprit est bien disposé, mais notre chair nous cause bien les soucis. C'est vrai, ma chère sœur? La chair nous cause bien les soucis. Alors Paul nous met en garde dans ce texte, et tout chrétien sera confronté à ces quatre mêmes tentations. À agir comme un idolâtre, facile hein, aujourd'hui. Succomber à la conduite, la débauche. Tenter le Seigneur, voilà. Murmurer à l'encontre de Dieu, des leaders spirituels. On est tous confrontés à ça. Comment est-ce possible qu'après tant d'années de souffrance, d'esclavage, une partie de ce peuple enfin libre, conduit par Dieu, vers la terre promise, comment c'est possible qu'ils aient pu aussi rapidement se rebeller? Mais on leur ressemble, hein, ne croyez pas qu'on est mieux, hein, on leur ressemble. Quelqu'un disait si leur corps était bien dans le désert, par contre leur cœur était encore resté quelque part en Égypte. Alors ils se mirent à convoiter les plaisirs coupables du pays qu'ils avaient laissé derrière eux. Et on connaît tous ce panneau, attention danger, n'est-ce pas? Et pourtant la tentation est grande de braver l'interdit. J'étais en Angleterre avec Alexis. Pour mes 60 ans, ils m'ont payé un voyage, super. Et on se baladait près des falaises que connaît bien l'Ignat, qui s'appelle les Sept Sœurs. Et puis, il y avait un cordon de sécurité qui disait explicitement ne surtout pas aller trop près de la falaise. Et... qu'avons-nous fait? Hop. On a bravé l'interdit, fils. Nous avons bravé l'interdit. Ok, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, nous sommes présents. Mais l'apôtre nous met en garde sur la manière dont nous vivons, gérons notre liberté, retrouvons en Christ. C'est une image, on est libre, mais est-ce qu'on va braver l'interdit? Et les exemples que je viens d'écrire rapidement sont là pour nous faire réfléchir, nous faire prendre conscience que notre liberté ne doit pas servir de prétexte pour flirter avec le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça ne doit pas servir de prétexte pour faire n'importe quoi. La gloire de Dieu en dépend, notre témoignage en dépend, dans l'Église et hors de l'Église. Mon ami, après tant d'années de conversion, chers frères et sœurs, n'as-tu jamais regretté? Un petit moment, pas longtemps. Quelques aspects de ta vie lorsque tu vivais dans le péché? Je connais la réponse. N'as-tu pas été tenté parfois de mettre de côté juste un moment ta vocation de disciple? Allez, un petit moment. C'est risqué, hein. Le verset 6 nous enseigne de ne pas avoir de mauvais désirs comme ils en ont eu. Mais au contraire, on doit traiter radicalement tout compromis avec le péché. Et c'est pour ça, comme les infirmières ici présentes, il est important de prendre les paramètres vitaux de notre âme, les pulsations de notre cœur. Car là où est ton trésor, là est ton cœur. Si mon cœur est tourné vers Dieu, ça va. Et notre combat commence souvent au niveau du regard, de la pensée, de nos désirs. Ils ont désiré, ils ont convoité dans ce désert. Et Jésus, enfin en tout cas, il dit dans cette parole à travers Paul, « Ne provoquons pas la jalousie de Dieu. Si l'un d'entre vous a déjà provoqué la jalousie de son conjoint, de sa conjointe, ça a dû barder un petit moment, mais Dieu c'est encore un autre niveau. » Alors le verset 21 nous donne cet avertissement solennel. Si Dieu n'a pas toléré l'ingratitude, la rébellion, l'idolâtrie, la débauche, les critiques et les murmures, il ne les tolérera pas non plus chez ses enfants, chez son peuple, chez son église. Ici, il n'est pas question de la perte du salut, mais certains sont morts dans le désert. 23 000, bam! D'autres ont été mordus par les serpents, les exterminateurs, waouh! Mais en tout cas, ceux qu'on sème, on risque de le récolter sûrement. Je ne dis pas comment, je ne sais pas, mais on risque fort de le récolter. Il n'est pas question de la perte du salut. Alors, deux écueils à éviter. Il y en a plusieurs, mais deux. La première, c'est les murmures. Exode 15. Ils traversent la mer Rouge. Ils font une expérience extraordinaire. Marie, la sœur de Moïse, se met à prendre du tambourin. Ça chante, ça loue. Elle fait un cantique. Quelques temps après. Mais qu'est-ce qu'on va manger dans ce désert? Et ça commence. Que boirons-nous d'abord? 2 mois plus tard. Passe un super moment, je crois qu'ils ont une victoire 2 mois plus tard. Mais qu'est-ce qu'on va manger dans le désert? Nous, en Égypte, on avait tout ce qu'on voulait. Il y avait des concombres, il y avait de la viande, du pain satiété, on meurt de faim, c'est pour ça qu'on est venu dans le désert, il valait mieux rester où nous étions. Des fois, on est jeunes chrétiens, ou même plus anciens, on se dit, mais finalement, c'était plus facile avant. Quand je vivais dans le péché, j'avais pas autant de soucis, d'embrouilles. Mais ça, c'est le malin qui nous trouble. Autrement dit, on s'en sortait mieux avant, avant d'être enfant de Dieu. Totalement faux, mais c'est nos raisonnements qui sont faux. Ouais. La chair a vite repris ses droits, oubliant les bienfaits de Dieu, homme de peu de foi. La chair a très vite repris ses droits. Et des fois, au moindre obstacle, est-ce qu'on n'est pas enclin à murmurer contre Dieu? Est-ce qu'on n'est pas tenté de critiquer? Ouais, Seigneur. Non, mais sérieux. Oh, ça fait des mois que je prie pour cette situation, il ne se passe rien, maître. À quoi bon? Combien nous arrive de rechigner à suivre Jésus en prétextant que l'endroit où il nous mène n'est pas à notre goût? Mais Seigneur, pourquoi tu m'imposes un tel effort? Pourquoi telle maladie? Pourquoi telle difficulté? On ne se rend pas compte du plan divin de Dieu qui est pour que tout concourt à notre bien. Et puis, pareil, ils avaient vécu une grande victoire chez les Édomites. Après avoir vécu une grande victoire, ils devaient passer chez les Édomites, mais ils ne voulaient pas. Alors Moïse a dit, on fait un détour. Et voilà. Faire un détour, quel désappointement. Encore ce désert. C'était donc plus facile de passer par là. Après avoir expérimenté quelquefois une victoire spirituelle notoire dans nos vies, on croit avoir fait des progrès conséquents avec le Seigneur. On se dit, waouh, j'ai grandi. Certainement, j'ai grandi. Mais arrive une situation inattendue et paf, le murmure revient aussi vite. Et des fois, c'est dur d'admettre pour nous, après des années de conversion, que finalement, notre vieille nature est toujours aussi prompt à vociférer contre Dieu. Toujours aussi prompt. Et on le voit pour ce peuple, que ce soit au tout début du périple, jusqu'à la fin du périple, à peu près 40 ans dans le désert, à plusieurs reprises, ils ont tenté Dieu, ils ont murmuré contre Dieu. Moïse ne fut pas épargné. Combien de leaders spirituels, après 2-3 ans de vocation, de pasteur, tout ça, ils ont jeté l'éponge. Parce que les murmures, les critiques, ils se cassent la figure. Ils n'ont pas pu tenir le coup. Moïse aussi, il a souffert. Et pourtant, durant ces 40 années désert, le peuple a été enseigné, protégé lors des batailles. Il a été conduit, nourri, abreuvé, jusqu'au moment où ils entrèrent dans ce pays promis. Leurs vêtements ne s'étaient pas déchirés, leurs pieds n'avaient pas gonflé, leurs chaussures n'étaient même pas abîmées. Et pourtant, au moindre obstacle, ils se rebellèrent à plusieurs reprises. Tout ça, ça nous sert d'exemple, de ne pas imiter leur conduite. L'esprit est bien disposé, notre chair est faible. Et alors, à cause de ces multiples contestations, l'Éternel a puni les coupables. Mais malgré ça, sa bonté a toujours été présente, s'est toujours manifestée dans le désert. Même envers les récalcitrants. Son amour et sa générosité étaient sans faille. Alors, deuxième écueil, l'idolâtrie. Il y a une constance dans ces exemples tirés de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ici, il est question d'un veau d'or. En Égypte, certainement, on adorait des statuettes de toutes sortes, des animaux, on le voit dans nos reportages. Moïse est sur la montagne, il reçoit le plan du tabernacle. Quelle merveille! Il reçoit les 10 paroles pour comment s'approcher de Dieu, le louer, l'adorer, lui le saint, le pur. Et puis ils en ont un peu marre d'attendre, ils disent, tu sais quoi, on fait nous un veau d'or. Parce que Moïse, c'est pas ce qu'il est devenu. Donc ils ont trouvé un prétexte pour se divertir. Un certain nombre de personnes ne lui accordèrent peu d'intérêt et décidèrent de rebeller Dieu au second plan et de s'adonner à l'idolâtrie. Finalement, on va faire à notre manière, c'est le plus simple. Combien d'églises de façade agissent de la sorte? Combien de soi-disant chrétiens ne font qu'un cas de Christ? Disant, nous ne savons, c'est vrai, Jésus est parti au ciel, et certains disent, oh, au fait, ça fait combien de temps que vous attendez le retour de Christ? Finalement, pourquoi attendre? C'est rien. Loin des yeux, loin du cœur. Et on s'adonne à des pratiques immorales. Parce que adorer le veau d'or, c'était pas que manger, boire, faire la fête. Le mot divertir en hébreu, ça découle sur des attitudes immorales, comme la sexualité. Et souvent, c'était ça dans les cultes païens. Et le peuple s'est adonné à ce genre de pratiques. C'était la catastrophe. Quand Jésus revient sur terre, trouvera-t-il encore de la foi? J'espère. À Corinthe, à Wittenheim, vous voulez, il y a toujours des occasions, elles ne manquent pas, pour se laisser aller à certains plaisirs, certains divertissements. Le défi est de taille pour nous aujourd'hui. On vit dans ce milieu culturel, idolâtre, débauché, on est bombardé de publicités, d'images de toutes sortes. Les idoles sont aussi présentes, hein, toujours. C'est plus des veaux d'or, mais ça peut être le culte du corps, la réussite sociale. Le sport, certains se font tatouer leurs idoles sur le bras, par exemple. Les loisirs. Tout ce qui est plus important que Dieu dans sa vie est une idole. Tout ce qui supplante Dieu devient une idole. Tout ce qui captive mon cœur et mon imagination et tout ce qui remplace les biens que seul Dieu peut nous donner deviennent des idoles. Un certain évangéliste asiatique disait, moi ce que je redoute le plus, parce qu'il faisait beaucoup de voyages, c'est l'immoralité, l'argent, l'orgueil. C'est ce qu'il guettait, souvent. Je me souviens, il y a bien des années, j'étais en déplacement à Lyon avec un ami, et puis on avait faim, on avait soif, on était fatigué, on avait fait une longue route, plus de 8 heures de chemin de route. C'était éreintant parce qu'il y avait énormément de neige. Bref, on arrive là, on veut boire un café, manger un petit truc. Et puis on demande à une serveuse, on dit, écoutez, on aimerait bien en soirée boire un petit verre tranquille, enfin, histoire de se relaxer après une longue journée de chantier. Vous voulez savoir, il y a des filles? Tout de suite, la tentation, paf. Vous cherchez des filles? Voilà, ça nous prend à tous les coins de rue. Le danger. Connaissez cet adage un peu ridicule que le monde nous donne, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Des fois, certains d'entre nous vont dans des séminaires et là, il y a des trucs. Mais c'est entre nous, c'est pas grave, c'est hyper risqué. Je me souviens de ce détenu, j'ai été le voir mercredi. Michel, ce que tu m'as dit, ça a marché. Sauf, je me souvenais plus de ce que je lui avais dit. Il me dit, quand je convoite une femme dans mon cœur, une surveillante par exemple, parce que c'est un homme qui aimait bien, ben, je fais comme toi, j'imagine que c'est ma sœur. J'imagine que c'est ma mère ou ma grand-mère, enfin voilà. C'est des moyens qui paraissent un peu bons. Mais dis-moi, je mets ça en pratique pour résister à ces tentations. Elles sont devant nos yeux. Nos yeux, le premier regard, on peut pas échapper. C'est le deuxième regard qu'on commence à fomenter. Et on risque de tomber dans l'idolâtrie, la débauche après plus loin. Bon, j'arrête là parce que sinon c'est trop long, mais on peut analyser des versets 11 à 13. Trois versets, trois conseils qui nous incitent à la vigilance et la fermeté face aux tentations. Premier verset, c'est verset 11, premier point. On peut rendre grâce parce que ce texte est parvenu jusqu'à nous pour nous sensibiliser à la prudence. Et on a besoin constamment de s'examiner et d'ajuster notre comportement à la lumière de l'Évangile. On peut se laisser enseigner, éclairer, repentir si besoin par l'Esprit Saint qui vit en nous. Nous avons à notre disposition tout le conseil contenu dans le Bible, mais le peuple d'Israël n'avait pas tout ce conseil. Ne végétons pas dans l'ignorance. Verset 1er. Ne soyez pas ignorants, disait-il aux Corinthiens. Il est notre devoir de nous laisser enseigner, imprégner de la parole de Dieu pour que quand la tentation vient à nous, on sait trouver les réponses. On sait trouver des éléments pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. Deuxième conseil, lui, de pas manifester trop d'assurance. Celui qui est debout, prenne garde de pas chuter. On doit faire preuve d'humilité, de pas avoir un excès de confiance, parce que ça frise l'arrogance et l'orgueil. Beaucoup d'entre nous, on a le permis depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pas pour ça qu'on roule à 230 km sur l'autoroute pendant on fait pas ça. On sait être équilibré, on apprend pas à prendre des risques inconsidérés. On doit faire preuve de bon sens et d'humilité. En 2002, je suis tombé d'un toit parce que je respectais pas les règles de sécurité. J'étais trop sûr de moi, trop sûr. Mais attends, je suis un chrétien de longue date. Tu rigoles, tu crois que cette petite situation-là va me faire chuter, moi? Là, déjà, je suis pas bien. Je prends des risques énormes. Et mon ami me disait, mais attache-toi. Je dis, mais non, le plat est toi. Ben, j'ai glissé de ce toit tout plat. Et boum, 4 mètres plus bas, on m'a retrouvé. Ne soyons pas téméraires, n'est-ce pas? Sous prétexte de l'expérience. Georges Verwer nous donne quelques exemples. Il dit, méditez, priez la parole tous les jours. Évitez de rester seul avec une personne du sexe opposé. Par exemple. Il ménage. Quand vous partez en déplacement, pourquoi pas loger chez des chrétiens? Et si vous allez à l'hôtel, éteignez le portable. Le portable, c'est un fléau. On a accès à tout un tas de trucs et on peut partir dans des mauvais délires, comme diraient certains. Et puis, je vais vous lire un petit truc que j'aime bien de Spurgeon. J'ai bien aimé ce qu'il a dit par rapport à cet aspect-là. Curieusement, il est possible d'être orgueilleux en raison de la grâce reçue. Un tel dira, j'ai une grande foi, je ne trébuche pas. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. J'ai un amour tellement ardent pour le Seigneur que moi je tiens debout. Sûr, pas de souci. Prenez garde de vous vanter des grâces qui vous étaient accordées, que toute votre confiance se place en Christ et en sa force. C'est ici la seule manière dont vous serez protégé de toute chute. Adonnez-vous beaucoup plus à la prière, passez du temps dans l'adoration, lisez les Écritures avec plus de zèle et de régularité, veillez sur votre manière de vivre avec plus de soin, vivez plus près de Dieu, etc. Avancez donc, chrétiens, avec soin et attention, avec une sainte crainte et tremblement. Ayez une seule confiance en Jésus-Christ, que votre requête ne cesse d'être « Soutiens-moi selon ta promesse, Seigneur Dieu », car lui seul est capable de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et allégresse. Si on peut tenir debout, c'est simplement parce que Christ œuvre dans nos cœurs, il pourvoit nos besoins, on compte sur lui, on s'appuie sur sa force et sa puissance. Et puis, troisième conseil, c'est le verset 13, nous assure de la fidélité de Dieu. Pas de tentation où Dieu nous laisse orphelins, nous laisse nous dépatouiller. Non, il permet pas qu'elle soit au-delà de nos forces et prépare le moyen d'en sortir. Le Seigneur Jésus, l'air de rien, œuvre sans relâche pour nous maintenir dans sa présence et pour nous sortir de guépier quand c'est nécessaire. Il travaille, il est notre avocat. La Bible, je l'ai déjà dit, fournit quantité d'éléments, de promesses édifiantes qui nous permettent de persévérer dans l'épreuve. Et puis, ce qui est important, c'est partager en tout premier lieu nos luttes avec Jésus-Christ, par des supplications, des requêtes. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves dans le désert, Jésus s'y trouve déjà. Quand tu traverses le désert, Jésus, ça fait bien un moment qu'il y est. Il va te seconder, te porter, te délivrer, te donner la victoire, on peut lui faire confiance. Christ a passé, nous le savons tous, 40 jours dans le désert, il eut faim, il eut soif, il était dans un état d'extrême faiblesse, et le diable vient le tenter. Mais Dieu n'est pas capable de faire ça. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Et Jésus a résisté, il a tenu ferme. Il n'a pas succombé, il est sorti victorieux. Et soyez-en sûrs, il nous donnera le moyen de sortir de nos épreuves, de nos tentations. Hébreux 2, 18 nous dit, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Hébreux 4, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses, c'est Jésus. Hein. Mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. J'ai du mal avec le mot « tenté ». Je me dis quoi, Jésus, t'as été tenté de murmurer. T'as été tenté, la débauche, tout ça. Enfin, ça. J'ai du mal à dire, hein, mais Jésus a été tenté en toutes choses. Je le dis vraiment avec des pincettes, mais en toutes choses. Sans commettre de péché. Et donc, c'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver un secours opportun. Heureux l'homme et la femme qui supportent patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. On peut aussi partager nos combats avec un frère, avec une sœur. Ça, c'est super puissant. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, c'est très pertinent. Tu es assuré d'avoir un partenaire, un confident dans ton combat, dans ta lutte. Quand ça va pas, tu téléphones, tu sais quoi, viens m'aider, ça va pas. Ou, peu importe, on peut même se parler au bout du fil. Mais du coup, on est un peu redevable l'un de l'autre. C'est-à-dire, on prend soin l'un de l'autre. Comment ça a été cette semaine? Comment ça a été il y a 2 jours? Et puis, on parle librement, simplement, dans le secret de la confession. On laisse pas la place à l'ennemi qui veut faire son nid, hein, pour qu'on puisse chuter. Et par des rencontres régulières, on avance vers la libération du péché qui nous meurtrit. Alors qu'on est marié, notre partenaire idéal, c'est notre époux. Sauf que des fois, quand on a certaines tentations face à l'écran, l'ordinateur, vous voyez de quoi je parle, comment on en parle à mon épouse, à mon époux? Pourtant, ça serait super de faire ça. C'est notre meilleur partenaire pour nous sauver pour nous délivrer. Bien sûr, Christ en premier, mais c'est le meilleur partenaire. Alors, quelqu'un me dira, mais moi, je suis veuf ou célibataire. Ouais, tu peux trouver une sœur, un frère en Christ, un des anciens, quelqu'un de valeur, de confiance vers qui te tourner, pour dire, voilà, moi, en ce moment, je suis en train de lutter avec ça, je prends la Sainte-Seine, mais ça me pose problème. J'arrive pas à vivre ma vie, ma liberté chrétienne, je suis en train de retomber en esclavage. Je suis en train de faire souffrir Christ à nouveau par mes comportements. Viens à mon secours. Et j'y arrive plus. Faire ça, c'est faire preuve de sagesse, hein. Au contraire, l'ennemi cherchera à ce qu'on reste seul, isolé. C'est plus facile d'attaquer une brebis isolée qu'une brebis dans un groupe. Avec le soutien d'un proche, on peut désamorcer le processus qui conduit à la défaite. Restez debout. Voilà, j'avais un quatrième conseil, mais c'est trop long, je m'arrête là, j'aimerais aller un peu plus loin. Ouais, verset 14, hein, fuyez l'idolâtrie, le seul moyen c'est fuir, mais je peux pas aller plus loin, c'est trop long. Fuyez, la parole de Dieu fuit, c'est le seul moyen. Et quand fuyez, prenez la bonne direction, vers Christ. Ah, parce que sinon, à chaque fois que nous sommes victorieux face à la tentation, nous glorifions notre Père. Et on vit en homme libre, régénéré par Christ. Du coup, notre témoignage ne sera pas entaché par un errement, mais servira par nos errements, hein, mais servira à authentifier toujours davantage notre vocation de disciple envers nos contemporains, et on pourra ainsi ne pas blesser leur confiance. Tout croyant devrait désirer avoir une vie intègre, honnête, qui honore Dieu. Or, le secret d'une vie qui plaît à Dieu, ce n'est pas d'observer un ensemble de règles ou de traditions, c'est avoir une relation profonde avec Jésus-Christ et chercher à faire tout pour lui. Si nous nous dévouons pour quelqu'un, c'est comme si nous le faisions directement pour Jésus. Si nous trompons quelqu'un, c'est aussi Jésus que nous trompons. Alors après avoir abordé ces trois conseils de vigilance, à la lumière de ce passage biblique, réjouissons-nous d'avoir part à toutes les bénédictions divines qui sont nôtres tout le long de notre pèlerinage. Dieu sera toujours présent et ne fera jamais défaut. Il est notre bien le plus précieux. Nous sommes son bien le plus précieux. N'affligeons pas le Seigneur, rejetons le péché qui nous environne si facilement. Édifions-nous mutuellement au sein de la communion fraternelle dans cette assemblée. Et puis avec le secours de Dieu, aspirons à progresser en sainteté, en pureté. Mes amis, ça fait plus de 30 ans que je marche avec le Seigneur, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Notre liberté en Christ implique des responsabilités. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Recherchons ce qui édifie le corps de Christ, ce qui glorifie le nom de notre Seigneur. Le principe essentiel de notre texte, j'aimerais le rappeler, notre vocation première, c'est de tout mettre en œuvre pour la gloire de Dieu, tout le long de notre marche chrétienne. Ma liberté doit être mise à contribution de l'Église pour le bien d'autrui, éviter d'heurter les consciences. Si des fois on a envie de murmurer, on est tenté de dire du mal, ben disons-le à Dieu pour qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse changer notre façon de penser, notre cœur. Et qu'ainsi de notre bouche sortent non pas des paroles malveillantes et blessantes, mais qui servent à communiquer un encouragement. Parce que tout ça, ça fragilise l'Église et le corps de Christ et fait l'œuvre du mal. Soyons intransigeants avec le péché, fuyons toute forme d'idolâtrie. 1 Jean 2, versets 16 à 17 nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » En conclusion, lorsque le péché frappe à la porte de ton cœur, envoie Jésus répondre à ta place. C'est bien ça. C'est mieux, non? Envoie Jésus répondre. Je termine juste par 3 versets. En conclusion. Colossiens 3, versets 5 à 7, c'est une invitation, on connaît ces versets. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, comme dans le désert. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans vos péchés. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armures de la lumière, les armes. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de toutes sortes. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et enfin, Colossiens 3, versets 23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Ah, je vais prier pour terminer.